France Inter, franceinter.com.
Les scrupules et la grandeur ont été de tout temps incompatibles. Cardinal de Retz. Ans d'histoire. Il était prêt à tout pour entrer dans l'histoire, sans aucun scrupule. Les scrupules, disait-il, et la grandeur ont toujours été incompatibles. Paul de Gondi, cardinal de Ré, était devenu prêtre sans en avoir la vocation, mais en sachant qu'à l'époque, c'était le meilleur moyen d'accéder au sommet du pouvoir. C'est en devenant cardinaux que Richelieu était devenu Premier ministre de Louis XIII et Mazarin l'homme le plus puissant de France, à l'époque où Louis XIV était encore trop jeune pour régner. Mais si, comme eux, Gondi a été cardinal, il n'est jamais devenu Premier ministre, et s'il est entré dans l'histoire, ce n'est pas par la politique, mais par la littérature. C'est en rappelant dans ses mémoires l'époque où, pendant la Fronde, il avait rêvé de devenir Premier ministre. C'était au lendemain d'une victoire de l'armée française en Flandre. Gondi était alors coadjuteur, l'adjoint de l'archevêque de Paris, et il prévenait le cardinal Mazarin que la ville était sur le point de se soulever.
Ah, monsieur le coadjuteur!
Je rends grâce à votre éminence de m'accueillir dans son privé.
Mais c'est Paris qui entre ici tout entier avec vous, monsieur de Gondi.
Hélas, monsieur le cardinal, en ce cas, je crains de traîner une mauvaise odeur. C'est la poudre qui se renifle ces derniers jours à Paris.
Mais c'est parce que le vent de Flandre la porte. Je vous confie que nous sommes à la veille de grandes victoires.
Hélas, monsieur le cardinal, il est vrai que le vent de Flandre risque de devenir vent de fronde.
Pour peu que quelque génie de la sédition souffle avec lui, hélas, je le sais bien.
Mort à la dernière ! Vive la France ! Mort à la
dernière !
Vive la France !
Altesse, la fronde !
Simone Berthier, bonjour.
Bonjour.
C'était le déclenchement en 1648 de la plus grande révolte qu'ait connue la France avant la révolution 1789, la Fronde, pendant laquelle Gondi, futur cardinal de Ré, a joué un rôle essentiel. Vous le rappelez, dans une biographie qui vient d'être rééditée aux éditions de Fallois, le cardinal de Ré, ce qu'on aurait aujourd'hui totalement oublié, s'il n'avait plus tard, bien après la Fronde, écrit des mémoires. Ce sont ces mémoires qui l'ont rendu célèbre plus que la politique. C'est en fond l'écrivain dont on parle aujourd'hui plus que du cardinal.
Oh, incontestablement. Mais il faut dire que son action politique s'est soldée par un désastre, à juste titre. En revanche, c'est un écrivain absolument remarquable. Donc la postérité a fait justice de ses véritables qualités.
Cardinal de Retz, Ré. Est-ce qu'on dit Ré ou Retz? Parce que alors, ça s'écrit R-E-T-Z. Hein.
Oui, ça s'écrit R-E-T-Z, comme le pays de Ré au sud de Nantes, d'où d'ailleurs il tire son nom, mais là-bas on prononce Ré. Alors lui-même, à la fin de sa vie, écrivait R-A-I-S, donc je pense qu'il faut se plier à la coutume.
Alors il n'est devenu Ré que quand il est devenu cardinal. Au début, il s'appelait Paul de Gondi, né à Montmirail en 1613, dans une famille noble d'origine italienne, et puis quand même qui n'était pas rien. Le grand-père, Albert, était maréchal.
Oui, alors la famille, on dit italienne, effectivement, il a un patronyme italien. Mais si on regarde la généalogie, il n'a qu'un huitième de sang italien, dans la mesure où sa famille avait déjà fait souche en France au cours du XVIe siècle. Il est quand même bien implanté en France. Et son grand-père, alors, était un des bras droits de Catherine de Médicis, le maréchal. C'est lui qui a fait la fortune de la famille. Mmh. Et sa grand-mère était un bel esprit à la cour d'Henri III. Voilà.
Il y avait un autre cardinal, son oncle,
oui,
le frère de son père, Henri, et puis son père, donc, qui s'appelait Philippe Emmanuel et qui était général des galères et qui avait confié l'éducation de ses enfants à un prêtre qui allait devenir célèbre grâce à lui, Saint-Vincent-de-Paul.
Messire Philippe Emmanuel de Bondy, comte de Joigny, marquis des îles d'Or, lieutenant général des mers du Levant, général des galères de France, par les présents autorisés par lui, s'engage à verser à monsieur de Paul, prêtre du diocèse d'Arc, licencié en droit canon, une somme de 45 000 livres, dont le profit et revenu devront servir à l'entretien, vêtements et nourriture et autres nécessités de 6 personnes ecclésiastiques qui iront de village en village prêcher et instruire le pauvre peuple des campagnes.
Vous savez, mon père, quel besoin j'avais de votre direction. À qui m'adresserais-je dans mes peines? L'âme de mes enfants dont vous étiez chargé?
Paris ne manque pas d'éminents ecclésiastiques, madame. Vous trouverez un autre confesseur moins indigne.
Et oui, Saint-Vincent-de-Paul, qui était le fondateur de la congrégation des Lazaristes, était aussi le confesseur de la mère du cardinal de Ré et le précepteur de ses enfants.
Pas exactement, le précepteur des deux aînés. Mais il n'a jamais enseigné le latin au petit Paul, qui était trop jeune à l'époque. Il faut dire quand même que Saint-Vincent-de-Paul est resté dans la famille, lié à la famille de Gondi toute sa vie, et qu'il est resté attaché personnellement au cardinal, même au moment de ses pires disgrâces pendant la fronde et après la fronde.
Alors Paul était le troisième de trois frères, d'une fratrie de trois frères. Le premier, Pierre, comme ça se faisait dans l'aristocratie, était destiné à l'armée. Le deuxième, Henri, était destiné à l'église, mais il est mort très tôt, je crois qu'il avait 12 ans. Et finalement, c'est Paul de Gondi, futur cardinal de Ré, dont nous allons parler, qui est devenu prêtre, mais alors sans aucune espèce de vocation, Simone Berthier.
Oui, mais c'est-à-dire, comment dirais-je, l'archevêché de Paris était dans la famille. Il y avait déjà eu trois Gondi sur le siège épiscopal de Paris. Alors, il fallait évidemment le conserver, c'était l'usage. Et le petit Paul n'avait aucune envie de devenir prêtre, mais il a bien
pas
fallu...
Soutane,
hein, non, non, ça n'en concluait pas qu'il n'était pas croyant, ça ne veut pas rien dire. Mais il n'avait pas l'âme ecclésiastique, il n'avait pas envie d'être prêtre, il ne voulait pas de la soutane, il se rêvait en gentilhomme, brillant, élégant, et il aurait voulu aussi se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Remarquez, comme il était myope comme une taupe, évidemment, il risquait pas de faire un grand capitaine. Mais
il n'aimait pas la soutane, mais il aimait beaucoup les filles. Hein. Me passer de galanterie,
voilà.
Disait-il.
Alors,
il avait beaucoup de maîtresses.
Oui, alors un autre obstacle à la vocation ecclésiastique, c'est précisément le vœu de chasteté. Alors, il se savait absolument incapable de le respecter. Et quand il a bien fallu tout de même devenir prêtre parce que la pression familiale l'exigeait, eh bien, il a pris une décision assez curieuse. Il explique que plutôt que de s'exposer à succomber au hasard au charme de telle ou telle belle personne, il préférait organiser son dévergondage pour le rendre plus discret, lui permettre ainsi de ne pas faire scandale et donc de mieux remplir ses devoirs ecclésiastiques.
Alors ses devoirs ecclésiastiques le conduisent, comme c'était prévu, à devenir coadjuteur, c'est-à-dire l'adjoint de son oncle, l'archevêque de Paris. Et c'est à ce moment-là, il est coadjuteur lorsque se déclenche en 1648 la fronde dont il va devenir, Simone Berthier, un des principaux artisans. On l'a entendu dans cet extrait de film annoncé à Mazarin que la fronde risquait de se déclencher. En fait, il en fait partie lui-même, en tout cas de la première fronde, la fronde parlementaire. Rappelez-nous peut-être en quelques secondes, car c'est un des moments très compliqués de l'histoire de France, les origines de la fronde. En fait, c'est un soulèvement contre Mazarin, qui gouverne la France. La régente Anne d'Autriche, c'est la mère de Louis XIV. Louis XIV est trop jeune pour régner, donc la monarchie est très fragile, c'est à ce moment-là que se déclenche cette première fronde dite parlementaire en 1648, Simone
Berthier. Oui, alors pour résumer, disons que Richelieu avait engagé une guerre contre l'Espagne qui déplaisait d'une part toute une partie de l'opinion. Les dévots pensaient qu'il était sacrilège de se battre contre une sœur catholique avec l'appui des protestants. Et d'autre part, la guerre avait... conduit à un alourdissement considérable des impôts. Les impôts avaient triplé. Donc, quand Richelieu meurt, tout le monde espère que Anne d'Autriche, qui est la sœur du roi d'Espagne, va faire la paix tout de suite et va rétablir la fiscalité antérieure.
Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, la mère de Louis XIV.
Voilà, va revenir au bon vieux temps où tout est pour le mieux, dans la meilleure des Frances possible. Et c'est à ce moment-là qu'elle choisit Mazarin comme premier ministre et que Mazarin assume la continuité avec la politique de Louis XIII et de Richelieu. Et avec avec l'appui d'Anne d'Autriche qui est d'accord. Elle veut que son fils ait une autorité pleine et entière. Alors évidemment, la France se soulève et la Fronde commence par une action des parlementaires. Ce sont des magistrats, mais ils ont une fonction de vérification des lois. Et ils refusent de voter les mesures fiscales nouvelles qui permettraient de continuer la guerre. Et c'est là-dedans que le cardinal de Retz s'engage, parce qu'il est très lié avec les magistrats. Il vit d'ailleurs à l'archevêché, dans la cité, tout près du palais de justice, et toute sa clientèle est de ce bord-là.
Donc, il fait partie des frondeurs. Alors, cette fronde, en fait, c'est une coalition de mécontents contre Mazarin. Mazarin est très impopulaire. Et puis, il y a ces mécontents, Gondi, justement, le futur cardinal de Retz, qui rêve de prendre la place de Mazarin. Il y a Gaston d'Orléans, l'oncle de Louis XIV, le frère de Louis XIII, qu'on appelle Monsieur, hein, et qui voudrait bien être régent à la place d'Anne d'Autriche. Et puis alors un prince de sang, glorieux, vainqueur des Espagnols à Rocroi et à Lens, le prince de Condé, que Gondi voudrait entraîner dans la deuxième fronde, la fronde des grands.
Monsieur le coadjuteur.
Monseigneur, il s'est formé un parti à côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands.
Je sais, qui veulent reconquérir toutes les places, regagner tous les bénéfices, faire régent ce merle déguisé en aigle qui s'appelle Monsieur, et vous faire principal ministre, ou qui sait, plus. Mais je sais tout cela parfaitement.
Toutes ces provinces...
Monsieur, j'ai assez de biens et d'établissements pour me conserver au roi par mes services et ma fidélité. Mais je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi, Gondi. Je suis prince du sang. Partie intégrante de la royauté, grand maître de France, général en chef, je m'appelle Louis de Bourbon-Condé. Et je ne veux pas ébranler la couronne. Je vous souhaite le bonjour. Gondi !
Monseigneur ?
Veuillez dire à ma sœur que l'armée d'Alsace fait route sur Paris.
Altesse, la fronde !
Et c'était ce qu'on appelait une mazarinade, hein, chantée à l'époque de la Fronde, qui était une révolte, entre autres, contre Mazarin. Une révolte, on l'a entendu, à laquelle, dans un premier temps, Condé, qui est vraiment le général le plus important de France, un prince de sang, refuse de s'engager, alors que Gondi essayait de le faire s'engager dans la Fronde. Gondi, le futur cardinal de Retz, avait une énorme admiration pour Condé.
Ah, mais bien sûr, c'était le modèle absolu pour qui rêvait d'exploits de chevalerie. C'était l'égal de César et d'Alexandre. Enfin, il avait un prestige extraordinaire et toute la noblesse le suivait.
Alors justement, dans cette première fronde, au début de la fronde, Condé défend la monarchie, puis va se retourner contre elle. Il va trouver auprès de lui, à ce moment-là, Gondi. Alors, c'est très compliqué, la fronde. Mais alors, la politique que mène Gondi pendant les 5 ans qu'elle a duré est encore plus compliquée. Il change de camp en permanence, Simone Berthier.
Oui, mais il a pour excuse que tous les autres changent également de camp en permanence.
Et c'est ce qui fait que donc, la fronde est incompréhensible.
Et voilà. Et comme il n'est tout de même pas du tout premier rang, il y a Condé et Gaston d'Orléans sont très au-dessus de lui, et bien, il y a des moments où on se le renvoie comme une balle et il fait ce qu'il peut dans le vraisemblable sac de nœuds que représente l'action politique à ce moment-là.
Alors, on va le voir donc auprès de Condé contre Mazarin. Il va même d'ailleurs faire quelque chose qui va traumatiser le jeune roi Louis XIV, qui est encore très jeune, qui a moins de 10 ans, ou qui a 10 ans, c'est qu'il va littéralement, Gondi, hein, le futur cardinal de Retz, va littéralement emprisonner en quelque sorte la reine dans Paris, craignant qu'elle s'évade. Hein, elle va être littéralement emprisonnée, prise en otage par Gondi.
Oui, alors là, on a brûlé un peu les étapes. Disons que Condé s'est retourné contre Mazarin parce que Mazarin n'a pas voulu payer ses services au prix demandé, qui était énorme, il demandait toute la France. Alors donc, Mazarin l'a fait emprisonner, sa prison a fait scandale, et finalement, les gens de la vieille fronde dirigée par Retz et les partisans de Condé se sont unis contre Mazarin pour libérer les princes. Donc à ce moment-là, Retz marche la main dans la main avec Condé. Voilà.
Il y a cette scène extraordinaire où effectivement les Parisiens viennent voir si le petit roi Louis XIV ne s'est pas enfui.
Alors Mazarin a été obligé de fuir la nuit en rasant les murs et il espérait que la reine pourrait le rejoindre hors de Paris avec le petit roi. Et c'est Gondi qui a donné l'alerte et qui a fait surveiller le palais royal et la foule est venue pour réclamer de voir l'enfant au palais royal. Et Louis XIV était couché dans son lit, tout habillé, botté, prêt à monter en carrosse pour partir. Il a fait semblant de dormir sur l'ordre de sa mère. Il a très bien joué son jeu. Et les mutins sont arrivés au pied du lit et se sont émus de larmes, sont tombés à genoux devant le petit roi.
Donc à ce moment-là...
Ça, ce sont des choses qu'on ne pardonne pas à Gondi.
Non. Gondi, futur cardinal de Ré, à ce moment-là, il est aux côtés de Condé, il est avec Condé, contre la reine, contre Mazarin, et puis brusquement, il va complètement changer. On va le retrouver se rapprochant de la reine contre Condé, un rapprochement étonnant, mais qui est dû au fait que, évidemment, Gondi espère le chapeau de cardinal que lui promet Anne d'Autriche.
Monsieur le coadjuteur, qu'il sera donc plaisant de vous appeler Monsieur le Cardinal.
Que votre majesté se moque de mon pauvre mérite, je ne devrais songer qu'à refuser trop de bienfaits. Oh madame, que de fois j'ai rêvé ici que votre majesté ordonne et que j'engage ma vie.
C'est une prière que je vous fais. Défendez-moi de ce fou. Je vous en prie, aidez-moi.
Madame, avec cette déclaration dont je vous ai lu le texte, nous allons dresser le Parlement contre Condé et l'obliger à quitter Paris.
Mon sort est entre vos mains.
Oh, madame, la joie de vous servir me ferait braver des armées.
Et voilà donc Gondi prenant le parti de la reine contre Condé, après avoir été l'allié de Condé contre la reine. Bon, encore une fois, c'est extrêmement embrouillé. C'est vraiment, cette politique de Gondi change beaucoup, mais ce qu'il espérait, ce qu'il attendait de ce ralliement à la reine, c'était ce dont il rêvait, une des deux choses dont il rêvait d'être Premier ministre, c'était de devenir cardinal, et voilà que la reine et Mazarin lui promettent ce chapeau de cardinal s'il se soumet.
Oui, ils ont bien besoin de lui contre Condé.
Oui.
Parce que Condé, à nouveau, s'est montré trop gourmand et menaçant. Donc, je pense que la reine s'est jouée merveilleusement de la fatuité de ce brave Ré.
Vous dites d'ailleurs que Ré, enfin, justement, il devient cardinal de Ré à ce moment-là.
Oui, pas tout à fait. On lui promet le chapeau.
Mais il est séduit par la reine. Vous semblez dire qu'il est amoureux de la reine.
Écoutez, amoureux, non, mais il a décidé de jouer auprès d'elle le rôle de soupirant transi, en pensant se la concilier. Et puis, lui, de toute façon, devant une femme, quelle qu'elle soit, il commence à faire la roue, il ne peut pas se retenir. Donc, il joue à ce rôle-là et la reine entre dans le jeu et elle le roule dans la farine, c'est-à-dire qu'elle obtient de lui tout ce qu'elle veut. Et en particulier, elle obtient... Alors, il y a la promesse du chapeau de cardinal, mais il y a aussi tout le jeu de coquetterie qu'elle a joué auprès de ce séducteur impénitent et qui n'y voit pas clair.
Et pour se débarrasser de Condé, Condé qui quitte Paris, qui lève une armée, la fronde continue, en fait, ça devient une véritable guerre civile. Condé va reprendre Paris. D'ailleurs, à ce moment-là, Ré s'en va, parce qu'évidemment, comme il était contre Condé, il fuit Paris en quelque sorte.
Pas vraiment, il s'enferme dans l'archevêché, et il s'arrange pour qu'on ne parle plus de lui, mais naturellement, il est dans une position complètement fausse. Il sait bien qu'il a perdu la partie. Alors, il attend le chapeau de cardinal qui a été demandé pour lui à Rome, au nom de la France. Mais le pape n'est jamais pressé, donc il attend. Et Mazarin souhaite bien que le pape ne lui accorde pas ce chapeau. Et puis finalement, le pape qui n'aime pas Mazarin finit par faire une promotion de cardinaux. Et le 19 février 51, que je ne me trompe pas d'année, non, 52, le chapeau lui tombe sur la tête, comme il dit plaisamment lui-même.
Donc, le coadjuteur de Paris, de Gondi, devient cardinal de Ré, à ce moment-là. Et puis, c'est le moment aussi où, finalement, Condé étant chassé par les Parisiens, eh bien, le roi, le jeune roi, Louis XIV, la reine, Anne d'Autriche, sa mère, Mazarin, rentre dans Paris. Alors, évidemment, le cardinal de Ré est tout content et s'imagine qu'il va profiter de ce qui met ainsi un terme à la fronde. Eh bien, pas du tout. Justement, il va se rendre compte très vite que si la fronde est finie, eh bien, ses ambitions politiques le sont aussi.
Notre cher coadjuteur, le nouveau cardinal de Retz, est bien à l'abri dans son cloître.
Il n'a garde d'en sortir, monseigneur. Il semble que la pourpre le bâillonne, celui-là.
Ce silence me semble bien étrange. C'est le seul grand frondeur qui reste, n'est-ce pas?
Sire, vous ne voyez pas que le cardinal de Retz ne vous est pas fidèle?
Je viens de faire arrêter, sire, le cardinal de Retz. Il sera ce soir à Vincennes.
Ah, oh, Louis, vous avez osé. Voilà le repos désormais possible.
Conti! Rebelle en fuite! Namur! Mort! Monsieur, en exil à Limoges. Condé, traître au service de l'Espagne. Retz, frondeur en prison.
Et c'était le 19 décembre 1652, l'arrestation du cardinal de Ré, et pas de Retz, hein, sur ordre du tout jeune Louis XIV. Pourquoi est-ce que on arrête le cardinal de Ré?
Oh, c'est très simple. Il s'agit de faire un exemple tout en haut, au sommet du premier ordre du royaume, qui est le clergé. Un très haut prélat a mené la guerre contre le roi et il s'agit de décourager tous les amateurs éventuels pour l'avenir. Donc Louis XIV ne pardonne pas.
Il ne pardonne pas surtout, effectivement, cette scène pendant laquelle
il
avait...
Tout le rôle de Ray pendant la Fronde est insupportable. Donc il y a cette première raison, il faut faire un exemple. La seconde raison, c'est que Ray est coadjuteur de l'archevêque de Paris avec future succession. C'est-à-dire que à l'instant même où son oncle mourra, il sera nommé archevêque en titre. Mmh. Et le roi ne veut absolument pas de lui comme archevêque.
Même temps que cardinal.
Ah oui, mais cardinal, c'est une chose, c'est une dignité, oui. Cardinal. Mais ce n'est pas une fonction. Mmh. Alors, la fonction importante et qui donne du pouvoir, c'est archevêque. Et donc, il s'agit de l'obliger à démissionner de l'archevêché.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, il est envoyé en prison à Vincennes, puis à Nantes. Et alors là, il y a une évasion rocambolesque qui se produit en 1654, si bonne
mère. Oui, mais c'est-à-dire que entre-temps, le tonton est mort et donc il est archevêque. Et alors, il a donné sa démission, mais il sait très bien que le pape ne souscrira jamais à une démission signée d'une prison. Donc, il a peur qu'on l'envoie pourrir dans un cul de basse fosse jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il s'évade du château de Nantes, c'est rocambolesque. Au bout d'une corde ficelée à un bâton, on le descend. Alors, j'ai visité le château de Nantes il n'y a pas longtemps et on m'a montré l'endroit d'où il est descendu et je comprends qu'il ait eu très peur.
C'est cassé l'épaule.
Oui, non, mais avant, oui. La descente s'est bien passée, mais vous savez, c'était impressionnant.
Il est tombé de cheval.
Alors, on l'a recueilli en bas, mais il était en retard parce qu'il avait eu peur. Il avait essayé de reculer le plus possible l'évasion. Le cheval était trop rapide, il est tombé de cheval. Alors, ce qui était prévu, c'est qu'il marche à bride abattue sur Paris et qu'il s'enferme dans l'archevêché et qu'il ameute toute l'église. L'accident qui lui a brisé l'épaule a évidemment compromis ce programme et donc il s'est échappé. Et il est passé en Espagne pour aller à Rome.
Alors c'est le début d'un très long exil. Il va être éloigné de la cour, il va en Espagne, il va effectivement passer longtemps, beaucoup de temps à Rome. Il est protégé par un pape, ensuite il y a un autre qui ne l'aime plus. Enfin disons que ça dure très longtemps, on l'oublie complètement, il est mis à l'écart, ses ambitions politiques sont totalement terminées. Et très longtemps après la Fronde, le voilà qui se met à écrire. Et c'est là qu'il va devenir célèbre, de façon posthume d'ailleurs, parce que ses mémoires qu'il écrit en 1675, ne seront publiés qu'en 1717. Et là, c'est un monument de la littérature. Il est un des plus grands mémorialistes de notre histoire littéraire, Simone Berthier.
Oui, alors il a tout perdu. Il a dû démissionner de l'archevêché. Il est couvert de dettes parce que tous les amis qui avaient financé ses errances pendant la clandestinité réclament leur dû. Et il n'a plus rien à faire. Enfin, sa vie est terminée. Il envisage même un moment de se faire moi. Et puis finalement, les bénédictins trouvent qu'il est, c'est un pensionnaire un peu encombrant. Et il se retourne s'enfermer dans son petit château de Commercy en Lorraine. Et là, bien pour meubler son temps, il se met à écrire ses mémoires. Alors évidemment, ses mémoires sont quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où, à la différence de ce qu'il avait écrit avant, des pamphlets ou des sermons, il ne pratique plus la langue de bois. Il écrit de façon extrêmement libre, c'est plein d'humour. Et bien sûr, il règle ses comptes à l'égard d'un certain nombre de personnages, mais surtout, il réécrit l'histoire à l'irréel du passé. C'est-à-dire qu'il écrit, et à chaque instant, il se dit que ça aurait pu bien tourner, qu'il aurait dû réussir. Mais malheureusement, il y a eu toujours un petit caillou sur son chemin qui l'a fait trébucher, comme au moment de la chute de cheval. Et c'est un livre qui est merveilleux d'élan, d'esprit, de bonheur même, tellement il trouve de plaisir à ressusciter son passé.
C'est pas la première expérience de l'écriture. Il avait quand même 61 ans quand il écrit, 62 ans quand il écrit ses mémoires. Il avait déjà écrit un livre qui s'appelait La Conjuration de Fiesque. Cela dit, ses mémoires sont extraordinaires, mais ça ne lui donne pas de gloire immédiatement, puisqu'ils n'ont été publiés qu'en 1717, c'est après la mort de Louis XIV.
Et bien entendu, vous pensez bien qu'on ne les a pas publiés du vivant de Louis XIV. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, alors après la mort de Louis XIV, au contraire, ils ont un très grand succès parce qu'ils sentent le soufre. On dit du mal du régime précédent. Bref, c'est un bréviaire de subversion, à peu près, ces mémoires. Mais ils ont continué à séduire, justement, essentiellement par la qualité du style.
Marc Fumaroli disait qu'au fond, il avait été non seulement un grand mémorialiste, évidemment, mais l'inventeur de la politique moderne, Simone Berthière. Pourquoi? Peut-être à cause du cynisme dont il a toujours fait preuve. L'absence totale de scrupules qui est, disons, très contemporaine, actuelle.
Mais pas tout à fait. Ils en ont quand même des scrupules. Ils s'arrangent avec. C'est plus subtil. Maintenant, qu'il soit le fondateur de la politique moderne, je pense que le vrai fondateur, c'est Mazarin. Il a contribué quand même par les maximes politiques dont il émaille ses mémoires à donner des quantités de leçons à la postérité.
Merci beaucoup, Simone Berthière. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. Il est imposant, il a plusieurs centaines de pages. La vie du cardinal de Ré, qui vient d'être réédité aux éditions de Fallois. Lire également les mémoires du cardinal de Ré, publié en livre de poche dans une édition établie, présentée et annotée par vous, Simone Berthière. Et puis vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal, ainsi que des films Louis-Enfant-Roi de Roger Planchot, disponible en DVD chez Universal, et Monsieur Vincent de Maurice Cloche, édité en DVD par Studio Canal. Enfin, je signale la parution de L'Histoire de France en bande dessinée, éditée par Le Monde avec Larousse, une collection en 16 volumes à retrouver avec le journal Le Monde, daté du dimanche lundi, chaque semaine jusqu'au 20 septembre. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bertin et Renan Mahé, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire des tigres. L'émission initialement prévue sur le bac a été reportée à lundi prochain.